Les discussions du soir. Chaque vendredi, géopolitique, aventure, voyage, par Jean-Christophe Ruffin, écrivain académicien, médecin.
Les discussions du soir, avec ce soir quelqu'un qui va nous emmener au Brésil, entre autres, mais surtout au Brésil, et surtout dans un parcours musical, l'histoire de la bossa nova, l'histoire du Brésil, avec Jean-Paul Delfino. Bonsoir Jean-Paul Delfino.
Bonsoir.
Alors vous publiez un livre passionnant. Bon, évidemment, vous avez prêché un convaincu avec moi parce que j'aime beaucoup le Brésil aussi, qui s'intitule Bossa Nova, la grande aventure du Brésil aux éditions Le Passage. C'est une histoire comme on les aime, c'est-à-dire c'est une histoire d'un pays continent en plus, à travers la musique, mais pas n'importe quelle musique, hein, c'est la musique brésilienne. On va en parler longuement. Je voudrais d'abord que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes venu, vous, au Brésil. Parce que, au fond, ce n'était pas inscrit dans votre destin au départ. D'où c'est venu la rencontre ?
Je suis toujours très gêné quand on me pose cette question, parce que je n'ai aucune réponse intelligente à donner. Alors, pour les cartésiens, bien évidemment, s'arrachent les cheveux quand je parle de métempsycose. Mais effectivement, quand j'ai posé les pieds au Brésil la première fois...
C'était quand ?
C'était en 1986, et je ne parlais pas un mot de brésilien. J'ai atterri le jour même dans un bidonville, et une semaine après, je parlais couramment le brésilien, et trois jours après, je parlais la gíria, l'argot. Donc, il n'y a personne de brésilien dans ma famille. Je viens d'une cité ouvrière du sud de la France où on n'a jamais vu un brésilien, et je crois que le déclic s'est fait parce que j'ai eu la chance, et je suis loin d'être le seul, mais on a tous, me semble-t-il, un lieu ami, un lieu jumeau, et moi je l'ai découvert très tôt par la musique, et c'était le Brésil, quoi.
Mais c'est la musique qui vous avait emmené là-bas, Jean-Paul Delfino ?
Ben, c'est... oui, en fait, l'anecdote est vraie, c'est que j'avais 13 ans, mes parents venaient de divorcer, je quittais cette cité ouvrière pour arriver à Aix-en-Provence, qui était la grande ville bourgeoise, et je me retrouve dans une soirée où on passe à un moment donné un disque qui m'a provoqué, et là je parle à Jean-Christophe Ruffin, le médecin, un AVC artistique mais terrible. J'ai vraiment eu une décharge dans le crâne qui m'a fait très mal, qui m'a effrayé. Et ce disque, c'était Gad Gilberto, le disque le plus vendu au monde, plus que les Beatles et Michael Jackson. Je massacrais déjà ma guitare, donc je jouais tout le répertoire, Nougaro, Brel, Brassens, et là cette musique, je n'ai absolument pas compris, et j'ai volé le disque, c'était un vinyle à l'époque. Je me suis remboursé après en ayant une petite histoire d'amour avec la jeune fille qui nous accueillait, et ce disque je l'ai écouté des milliers et des milliers de fois sans comprendre comment la main droite fonctionnait.
Et vous n'étiez encore jamais allé au Brésil ?
Non, du Brésil je ne connaissais que ce que vous peut-être en connaissiez à mon âge, c'est-à-dire
le
football, et puis dans les télés en noir et blanc qui étaient très lourdes et très épaisses, une fois par an, des jeunes femmes très peu vêtues, avec des plumes un peu partout. Je trouvais ce pays merveilleux, je ne savais pas que ça s'appelait le carnaval, que c'était le samba qui régissait tout ça.
Et vous êtes parti dans un cadre particulier, ou comme ça, en touriste, avec un billet d'avion ?
J'ai fait le Rastignac, c'est-à-dire quand on est dans le sud de la France, avant de tenter le grand saut et d'aller au Brésil. J'avais eu la chance d'interviewer Baden Powell, qui était un musicien merveilleux, un véritable génie de la guitare brésilienne. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre sur non seulement la bossa nova, mais en plus sur la musique brésilienne en général. Donc, je suis allé voir les Brésiliens de France. Et là, je suis monté à Paris et j'ai rencontré, mais chaque rencontre vaudrait au moins une demi-heure d'anecdotes. J'ai rencontré Claude Nougaro, Georges Moustaki, Pierre Barou, et puis une fois que j'ai eu fait toutes ces interviews, je me suis dit maintenant il faut aller aux sources, il faut partir au Brésil, et je suis parti avec une valise vide pour ramener des vinyles et des livres et peu d'argent et sans connaître personne sur le sol brésilien.
Donc vous arrivez à Rio, et pourquoi une favela ?
Ben là, c'est tout le mystère de la vie, cher Jean-Christophe Ruffin, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, dans une autre vie ou presque, avait eu ma mère comme prof d'anglais, donc dans cette fameuse cité ouvrière, et qui s'est souvenu de moi, et on s'est rencontré à cette époque, il n'y avait pas de portique pour détecter les métaux, j'avais toujours un cran d'arrêt sur moi, parce que les Français qu'on rencontre au Brésil, il faut se méfier, et donc ce garçon a montré patte blanche. Il m'a amené dans un tas d'hôtels qui étaient largement au-dessus de mes moyens. Il ne m'a pas laissé à la rue. Il m'a amené dans l'endroit où il habitait. Et le hasard a voulu que ce soit en fait la maison, enfin la maison, c'est beaucoup dire, de la première femme de Vinícius de Moraes. Donc déjà, dès que j'ai mis un pied là-bas, et mon second, je préfère dire deuxième, j'espère qu'il y en aura d'autres, AVC artistique, c'est quand j'ai posé un pied sur le sol du Brésil.
Alors, bon, le Brésil a nourri plein de choses pour vous, et notamment, évidemment, une connaissance de la musique, mais aussi une expression plus romanesque, puisque vous avez consacré des romans au Brésil, plusieurs romans, notamment donc un livre toujours aux éditions du Passage qui s'appelle Pour tout l'or du Brésil, qui est un livre historique, qui se situe à l'époque de la au XVIIIe siècle. Donc, ça reste finalement votre espèce de mine d'or pour vous, hein, comme puisqu'on parle d'or. Le Brésil, c'est votre sujet, pratiquement tout le temps.
Oui, mais c'est un petit peu à la manière des compagnons du Tour de France. C'est-à-dire que le Brésil, j'essaie d'abord de le servir et non pas de m'en servir, ce qui est quand même une posture, une attitude que j'essaie d'être la plus honnête possible. Et ensuite, c'est que j'ai écrit 9 tomes, c'est-à-dire plusieurs milliers de pages sur de romans historiques qui balaient 3,5 siècles de l'histoire du Brésil, tout en sachant pertinemment que ça ne se vendrait pas en France. Donc le but du jeu, ça n'est pas de vendre du livre. Pour moi, c'était d'abord de mieux comprendre ce dont je parle, et ensuite d'essayer petit à petit. Bah, au début, j'étais auteur de livres sur la musique brésilienne, puis je suis devenu romancier, et peut-être qu'après mon tour de France qui s'est finalement passé au Brésil, je commence avec Les Pêcheurs d'étoiles à devenir écrivain. Mais pour moi, c'est une longue école de la patience. Les Pêcheurs d'étoiles,
c'est un roman aussi dans lequel vous avez choisi 2 personnages mythiques qui se rattachent quand même, en tout cas pour l'un d'entre eux, au Brésil, puisqu'il y a Sandrars et puis Eric Satie. Alors, il y a un musicien et un Brésilien, on pourrait dire. Enfin, quelqu'un qui a un lien avec le voyage et avec le Brésil.
Oui, alors ça, c'est venu après le 9e tome, parce que au bout d'un moment, j'en ai discuté beaucoup avec Pierre Barou, qui m'a fait l'honneur de son amitié pendant 30 ans. Et il a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « J'ai régulièrement l'obligation et la nécessité de savoir où sont mes racines. » Il me dit « il me disait, et là, s'il n'est plus là, je suis français, je suis le fils de Brassens, de Brel, de Clément Marot, de Villon et de tous ces gens-là. » Et moi, au bout de quelques milliers de pages, au bout de 9 tomes, je me suis dit, ben moi aussi je suis français, mais donc peut-être il faudrait que tu écrives aussi sur le pays qui t'a vu naître. Et je me suis très vite rendu compte que ce pays qui est merveilleux, qui est la France, mais la France d'aujourd'hui ne m'intéresse absolument pas. C'est notre problème. Et en revanche, ce qui me passionne en France, c'est ce que la France a pu être. Et le plus récemment pour moi, c'était vraiment les années 1910-1920, où il y avait vraiment un talent, ça giclait comme une source, c'était merveilleux. Et de voir ces 2 Don Quichotte qui n'appartenaient à aucune chapelle littéraire ni musicale, c'est-à-dire Blaise Sandrars d'un côté, les Clopés, et Eric Satie de l'autre, le gentleman d'Arcueil-Cachan, c'est vrai que pour moi, c'était essayer de dépeindre ces 2 personnes durant toute une nuit de beuverie absolue, bien évidemment, mais les faire errer entre la traversée de Paris et un Saint-Jean-Hiver, pour moi, ça avait du sens.
Mais c'est une fiction totale, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés beaucoup.
C'est une fiction, oui, ils se sont rencontrés au moins à 4 reprises, et ensuite, ils ont été quand même assez copains, mais je pars d'un fait réel qui est le suivant. Et là, c'est vrai que les ayatollahs, les intégristes de Jean Cocteau m'en veulent un peu, mais ça part d'un fait réel qui, en 1924, Sandrart se retrouve sur le bateau qui l'amène au Brésil pour la première fois, le Formose. Et là, il se souvient que Eric Satie lui avait demandé qu'il lui écrive l'argument d'un opéra ballet. Donc, il l'avait oublié. Il l'écrit sur le bateau. Il l'envoie par câble, qu'on appelait à l'époque les lettres aux océans, ce qui est quand même beaucoup plus poétique qu'aujourd'hui. Et puis, il va faire son train avec toute l'école moderniste à São Paulo, à Rio, et puis il revient quelques mois plus tard, et mon roman commence à ce moment-là, où Satie lui saute sur le paletot et lui dit « Mais tu m'avais promis un argument, je ne l'ai pas reçu. » Et Sandrart répond « Si, je te l'ai envoyé. » Il se rend compte immédiatement que c'est Jean Cocteau qui l'a volé pour le revendre ou le refiler, en tout cas à Jean Borlaine des ballets suédois. Donc ils vont passer toute la nuit, au prétexte de retrouver Cocteau et de lui mettre quelques gifles, même s'il faut se balader à Paris, dans Paris à dos de girafe. Et en même temps, il court après l'amour impossible qui est Bicky, qui est Suzanne Valadon pour Eric Satie. Donc c'est une nuit assez qui fourmille.
Alors ça, c'est donc un roman, Les Pêcheurs d'étoiles, toujours aux éditions Le Passage. Mais bon, je voudrais qu'on en vienne quand même à ce gros morceau que vous publiez maintenant, toujours aux éditions Le Passage, et qui s'intitule Bossa Nova. Bon, là, on est au cœur d'une sorte de voilà du sujet, bien sûr, de votre sujet, à la fois comme écrivain, mais aussi comme très très grand connaisseur de la musique brésilienne. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que vous tissez une histoire qui est celle de la musique avec l'histoire d'un pays, d'un peuple, et une histoire qui s'enracine dans une tradition qui est ce qu'on appelle en France la samba, mais qui est en brésilien ou samba, qui est masculin, le samba.
Exactement.
Voilà. Et dont il va sortir cette musique très très particulière, dont vous datez la naissance, hein, en 1956.
La date officielle, c'est 58.
58.
Sortie de Chega de Saudade de Jean Gilbert. Mais 56, c'est plus juste, à mon avis.
C'est le début, ce que vous expliquez. Alors, d'abord le samba. Un mot du samba, quand même, cette tradition qui est. D'abord, le mot lui-même, d'où il procède. Vous avez son étymologie, je crois. C'est un mot, en fait, yoruba. Enfin, c'est un mot qui vient de... Non.
Oui. C'est un mot qui vient d'Afrique. Comme me disait Baden-Powell, as raízes da música brasileira et africana. Donc, c'est purement...
Les racines de la musique brésilienne sont africaines.
C'est typiquement africain. Il y a à peu près autant de versions, de traductions du mot samba qu'il peut y avoir de samba. Différents, mais en règle générale, on s'accorde à dire que ça vient de samba, qui signifie coup de nombril. Voilà. Et donc, en fait, c'est le mouvement que fait le danseur ou la danseuse au centre d'un cercle pour désigner le danseur ou la danseuse qui va le ou la remplacer au centre du cercle, d'un voilà. Coup de nombril, d'un samba.
Alors, le samba, c'est quand même, c'est une musique qui est aussi une musique un peu anthropophage, hein, comme on dirait les Brésiliens, c'est-à-dire c'est une musique qui se nourrit des autres musiques, qui les absorbe. Il y a une tradition à Olinda, près de Recife, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle la Serechta, la sérénade du c'était le vendredi soir, je ne sais pas si ça existe toujours, où deux vieilles dames sortaient avec un violon et un petit crin-crin comme ça, très européen dans les tonalités. Et puis à chaque maison, elles s'arrêtaient, il y avait des instruments qui sortaient, des guitares, des tambourins, etc. Et à la fin, quand on sortait, c'était pas vraiment du samba parce qu'on est dans le nord-est, mais enfin du frévo, en tout cas les musiques du carnaval. Donc il y a ces origines mêlées du samba, mais... À un moment donné, il va se passer quelque chose dans ces années 50. Jusque-là, on ne parle pas de bossa nova, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le déclencheur qui va faire passer de cette longue période, finalement, où, du samba qui absorbe tout, à quelque chose de très particulier, qui est la bossa nova? Qu'est-ce qui se passe?
Jean-Paul Delphine. Alors Jean-Christophe Ruffet, là je parle à un connaisseur, un fin connaisseur et un amoureux du Brésil. Ce qui se passe, en fait, déjà le livre, c'est pour moi le roman d'une époque. Ça ne s'adresse pas aux musicologues qui, eux, ont déjà toutes ces informations.
Bien
moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai essayé de faire, c'est de raconter comment un peuple et une musique sont tributaires l'un de l'autre et enfantent et l'un et l'autre. Donc en fait, ce qui se passe en 1956, c'est pour moi une date, ou en tout cas une période, le début des années 50, c'est quelque chose de merveilleux, parce que pour la première fois, le Brésil a à la tête de sa république, qui est jeune encore, a un président élu de façon démocratique. Il s'appelle Juscelino Kubitschek.
Kubitschek, un bel homme, très charismatique.
Oui, oui, et puis c'est un homme sur qui courent beaucoup d'anecdotes.
Oui. C'est pas les anecdotes qui manquent dans votre livre, d'ailleurs. Ça fourmille d'anecdotes, c'est ça qui est formidable. Alors, Kubitschek, c'est l'homme de Brasilia.
C'est lui
qui va construire Brasilia.
Oui, oui.
C'est d'ailleurs paradoxal, parce que le samba, c'est Rio. La bossa nova, c'est Rio. Kubitschek, finalement, il va affaiblir Rio beaucoup, puisque Rio ne sera plus la capitale. La capitale va migrer vers Brasilia. Et bon, mais en même temps...
Il va l'affaiblir. En même temps, Rio va quitter son statut de capitale et va en prendre un nouveau qui va être attribué directement par les Brésiliens eux-mêmes. On va appeler Rio Bella Cap, à Bella Capital, la belle capitale. Mm-hmm. Donc ça, déjà, c'est un premier point.
Par opposition à l'autre...
Le Brasilia, c'est une folie architecturale. C'est Oscar Niemeyer qui est derrière. Pour moi, c'est Italo Calvin ou les villes invisibles. C'est une ville, c'est un concept, mais ça n'est pas une ville à vivre. Et d'ailleurs, quand les premiers fonctionnaires du gouvernement brésilien ont dû quitter Rio pour aller s'installer à Brasilia, le contrat était très très clair, c'est-à-dire la semaine commence le mardi après-midi et le finit le jeudi soir. Voilà, et les billets sont tous payés aller-retour au moins une fois par semaine pour...
Oui, mais enfin, vous savez comment ça se passe. L'urbaniste avait prévu des tas de choses et puis l'humain se réapproprie l'espace. Donc par exemple, les immeubles de Brasilia était ouvert sur les jardins et il y avait une petite ruelle au milieu pour l'approvisionnement des camions. Et maintenant, finalement, la partie vers les jardins est souvent murée et tout se passe dans les petites ruelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, Brasilia existe. Enfin, c'est pas notre sujet, mais aujourd'hui, Brasilia est devenue une vraie ville. Il y a même des favelas à Brasilia.
Oui, mais la population se réapproprie, heureusement, les délires quelquefois géniaux des architectes et quelquefois moins faciles à vivre. Mais quand Kubitschek arrive, ce qui se passe de vraiment formidable, c'est que déjà son cri de ralliement, c'est faire progresser le Brésil de 50 ans en 5 ans, c'est-à-dire la durée de son mandat, ce qui déjà à l'époque était très compliqué.
Il va lancer des projets dans tous les sens.
Ah, c'est Brasilia d'ailleurs, c'est à 500 km à l'intérieur des terres, alors que jusque-là le Brésil ne s'était développé que sur le littoral atlantique. À ce moment-là, il y a même sur le plan sportif, mais en 1958, c'est la finale de la Coupe du Monde contre la Suède et la naissance de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Donc le Brésil est fier de son football, le Brésil est fier de son architecture, le Brésil est fier de son cinéma, parce qu'arrive à ce moment-là le cinéma novo, qui est l'équivalent du cinéma de la Nouvelle Vague. Le Brésil est fier de rompre aussi sur le plan de la poésie, par exemple, la poésie concrétiste, néo-concrétiste de cette époque, rompt avec les canons qui ont jusque-là toujours été complètement... accepté et recherché par les intellectuels et les artistes brésiliens. Donc, le Brésil, jusqu'à présent, était connu du reste du monde parce que café, cacao, samba et mulatas, oui, ouais. Exactement. Mais arrive Kubitschek qui dit... On peut désormais dire que nous sommes adultes, le Brésil est un pays adulte, et on va montrer au reste du monde qu'on a aussi notre propre culture.
Et tout ça va se tisser dans la musique. On va en écouter un petit extrait.
Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosas carregadas pelo vento, amor tão puro carregou meu pensamento.
Les discussions du soir avec Jean-Paul Delfino. Alors là, on est bon au Brésil. On est dans ce début des années, enfin fin des années 50, disons, ce Brésil qui bouillonne. Et puis, il y a des personnages qui vont être les catalyseurs de cette nouvelle création, de cette nouvelle musique. Avec un personnage, alors il y a plein de personnages dans votre livre, qui sont décrits de façon étonnante, puis on prend plein de choses. Vinicius de Moraes, par exemple. Vinicius de Moraes, c'est un poète, dramaturge, et il y a tout un tas de choses qui se passent autour de lui, parce que d'abord il est diplomate, il reçoit la visite de Kubitschek le soir, enfin, etc. Il fait un opéra, les décors sont faits par Niemeyer, enfin on a vraiment l'impression d'une espèce de siècle de Périclès, là. Parlez-nous un petit peu de Vinicius de Moraes et surtout de ce projet qui deviendra Orfeo Negro, mais qui est cet opéra autour d'Orphée et qui va quand même être un des moments fondateurs de la bossa nova.
Oui, alors c'est un aspect du personnage Jean-Christophe Ruffin qu'on connaît moins, y compris au Brésil, et j'ai voulu essayer de donner de Vinicius un portrait qui soit pas aussi lisse que ce qu'on en lit d'habitude, c'est-à-dire le patriarche de la bossa nova, le plus grand, à mon avis, le plus grand poète de la musique brésilienne, mais en fait Vinicius a eu ses errances quand il était plus jeune, il a même été censeur sous la dictature, il flirtait avec les idées d'extrême droite, jusqu'au moment où il est venu en France, il a vu ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, et là il a pris, et puis il a fait aussi un voyage dans le Sertan qui lui a remis les idées en place, et c'est devenu l'humaniste qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ce qu'on doit à Vinicius, c'est effectivement Orfeo Negro, il était connu à cette époque déjà comme poète, mais il voulait avoir un public plus large, parce que la poésie, même au Brésil et même à cette époque, c'était quand même réservé à un cercle d'initiés, et il s'est dit je vais prendre un thème éternel qui est celui d'Orphée et Eurydice, et je vais faire tout ça à la sauce brésilienne. Ça va se passer à Rio, et c'est là où l'idée est quand même assez géniale, c'est que la totalité des personnages seront nègres, et j'emploie le mot de nègre au sens de négritude, os negros, parce que preto, noir au Brésil, c'est une insulte. Donc pour moi, c'est nègre, ça veut dire la négritude, c'est une culture. Et donc tous les acteurs, je crois que c'est Abidias, la troupe d'Abidias qui était là, étaient nègres, sauf la mort qui était blanche.
Alors ça n'a pas eu de succès, ça s'appelait Orfeo da Conceição, ça n'a pas eu de succès, ça sera repris sous une forme différente, le film évidemment Orfeo Negro, célébrissime, mais cet échec relatif, de cet échec va naître quand même une musique, parce que cette musique de Tom Jobim, enfin... C'est la musique de l'opéra d'abord.
Maria do Carnaval. Oui, c'est alors on est très 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 loin de la bossa nova qui alors la bossa nova pour la définir très rapidement, c'est pas de vocalise, pas de virtuosisme, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire pas d'effet virtuose, et une pudeur absolue. Et donc là, quand on écoute le disque, on est quand même très très loin de ça, sauf que c'est la première fois que deux artistes merveilleux vont collaborer ensemble, c'est Vinicius d'un côté et Tom Jobim de l'autre. Donc ça va être vraiment l'une des pierres fondatrices de la bossa nova, et on peut dire que ses racines commencent quand même là, quoi.
Alors, ce qui va la faire cristalliser, qui va faire exister cette musique nouvelle, c'est un groupe que vous identifiez autour de l'Avenida Atlântica, qui a été une des grandes avenues de Rio, avec un petit groupe autour d'une femme, d'une jeune fille, parce qu'elle a 13-14 ans, qui s'appelle Nara Leão, et qui, au fond, une espèce de muse comme ça. Qui c'est Nara Leão?
Alors ça, c'est Jean-Christophe Ruffin. Il faut que je vous explique. Je vais prendre le temps et être le plus rapide possible. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Nara Leão. C'était 3 mois avant qu'elle décède. Et elle m'a fait. Alors, elle a refusé à 3 reprises. Son mari a refusé à 3 reprises qu'elle me reçoive. Et puis le dernier jour, la veille de mon départ, j'avais passé 4 mois déjà au Brésil, donc j'étais hors la loi. Mon visa n'était plus valable. Et je suis allé frapper chez elle. Et son mari m'a répondu, m'a mis dehors. Et Nara a poussé la porte et elle me dit, viens, je vais te montrer où est née la bossa nova. Et Nara Leão, c'était un petit bout de femme, mais d'une douceur. Elle avait déjà été tirée par la maladie, mais elle avait les yeux qui briller, et à mon avis, c'est pas uniquement la morphine. Et elle m'a fait un cadeau, regardez, à soirée pillade, j'ai la chair de poule, elle m'a fait un cadeau merveilleux, c'est que non seulement elle a répondu à mes questions, mais surtout elle a pris sa guitare, et elle m'a fait une espèce de showcase uniquement pour moi, et elle, surtout, elle m'a fait visiter son appartement, et elle me dit, c'est, il faut s'imaginer une très, très gros séjour qui donne sur l'Avenida Atlantica, elle me dit, imagine-toi qu'il n'y a pas tous ces meubles, et là, il y avait un piano, et là, il y avait un garçon très élégant qui fumait une cigarette et qui jouait du Ravel, il s'appelait Tom Jobim. Un peu plus loin, il y avait un mulâtre qui avait une guitare sur les genoux et qui commençait à jouer, à inventer ce qui allait être les Afro-Samba, il s'appelait Baden Powell. Un peu plus loin encore, il y en avait un autre qui jouait la dernière musique à la mode qui n'a jamais réussi à prendre au Brésil, c'était le rock'n'roll. Encore un peu plus loin, quelqu'un jouait du flave. Encore un peu plus loin, et elle me dit, c'est là que tous ces gens se sont réunis, et c'est comme ça qu'est née la bossa nova.
Dans cet appartement, donc, Jean-Paul Delfino, qui était l'appartement des parents de cette gamine, parce que c'est une gamine.
Elle a 13 ans à l'époque.
13 ans. Elle invite tous ces gens-là, les parents laissent faire, bon, ils trouvent ça très bien, et ils inventent une musique nouvelle. Ben, et comment la... Alors, vous l'avez défini un petit peu, mais qu'est-ce qui sépare vraiment la bossa nova du samba? Qu'est-ce qui en fait la singularité? Comment vous le définiriez?
Un homme. Un homme, pour moi, un génie qui est encore vivant. Pour moi, c'est un jour la bossa nova, si on la compare à une étoile, elle est tombée dans la guitare d'un baïen de Juazeiro, qui s'appelle Juan Gilberto, et qui est...
Oui, mais avant de parler, on va parler longuement de Juan Gilberto, parce que c'est un personnage absolument étonnant, et puis pour raconter des tas d'anecdotes sur lui, c'est passionnant. Mais... qu'est-ce qui définit, j'allais dire, d'un point de vue théorique, enfin, c'est, d'un point de vue musicalistique, d'un point de vue, je ne sais pas comment on peut dire ça, comment la bossa nova se sépare du samba?
Alors, la bossa nova, selon Juan Gilberto, n'existe pas. C'est une invention purement médiatique.
Bien avancé,
oui, parce que on dit souvent la bossa nova, ce sont les textes de Vinicius, les musiques de Jobim chantées par Juan Gilberto. Mais dans le répertoire de Juan Gilberto, ce n'est que 10%. C'est-à-dire 90%, en fait, ce sont de vieux sambas des années 20, des années 30, des années 40 que Juan Gilberto a récupéré. Et bossa nova, c'est une nouvelle façon de jouer et de sentir la musique. C'est même une nouvelle façon d'être. Donc c'est à un moment donné, le Brésil qui a jusque-là été toujours très très dionysiaque, je dirais, c'est-à-dire il fallait que ça explose, il fallait qu'il y ait la communion des sons, des corps, des parfums, c'est le carnaval, c'est voilà, dans l'inconscient collectif, le samba, c'est ça. Arrive Juan Gilberto, il dit... un peu de mesure, le silence est quelque chose de sacré, on va jouer d'une façon différente ce qui était joué jusqu'alors.
Voilà, donc... il y a une sorte de calme, c'est plus, oui. C'est plus la manière de le jouer. On en écoute un extrait.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é la menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Sadly, how can we tell her he loves
Bon, les discussions du soir avec Jean-Paul Delfino. Alors, on vient d'entendre la célébrissime Garota d'Ipanema, chantée par João Gilberto. Alors, João Gilberto, c'est un personnage absolument incroyable. C'est le cœur, on pourrait dire, de la bossa nova. En même temps, vous dites qu'il refuse, au fond, presque, de dire que ce terme existe. Alors, parlez-nous un peu de João Gilberto, mais il faudrait 2 heures pour parler de João Gilberto.
Oui,
10 heures.
João Gilberto, c'est plus qu'un personnage. D'abord, c'est un génie, ça. C'est quelqu'un qui invente un style musical à partir de. Pas de rien, mais enfin, qui invente vraiment quelque chose qui n'est pas un ressuscé de quelque chose.
Il est dans le groupe de l'Avenida Atlântica ou quoi?
Oui. Mais il apparaît de façon. Un petit peu comme les étoiles filantes. Quand on l'attend, il n'est jamais là. Quand on l'attend pas, il arrive toujours. Mmh. Donc ça, c'est João Gilberto. Et en fait, c'est un obsessionnel. C'est quelqu'un qui travaille sa guitare. C'est un solitaire. C'est quelqu'un qui a une immense culture musicale. Qui va des standards du jazz, bien évidemment, mais aussi au répertoire complet de Charles Trenet, dont il était un fan absolu. Et c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit... on a sans doute parmi les plus belles mélodies au monde. On les joue toujours de la même façon. Peut-être que, et ça aussi, ça vient du fait qu'il était avec dans la zone sud de Rio, donc dans la zone bourgeoise, dans la zone riche. On va peut-être essayer de jouer quelque chose que les oreilles des petits blancs peuvent entendre. Et c'est comme ça qu'il s'est dit on va arrêter. L'époque était à la mode des big bands, c'est-à-dire il y avait 30-40 musiciens. Il dit non, c'est fini. Maintenant, juste un homme et sa guitare, avec éventuellement une basse et un piano, et ça suffit largement. On arrête de pousser des cris, on arrête des vocalises qui sont parfois magnifiques, et on commence à murmurer quand on parle, on commence à parler la chanson, on commence à... c'est une musique de chambre pour moi, vraiment.
Alors, c'est ça qui va séparer au fond la bossa nova de la musique, en particulier du carnaval, où il y a les triolettes, quoi, avec les camions... oui, alors c'est formidable, mais enfin, c'est des camions avec des haut-parleurs tout autour, 30 types avec des saxophones. Bon, là, on est... Donc, une autre direction, mais avec les mêmes musiques, comme vous dites. C'est-à-dire que c'est... Alors, et João Gilberto a ce que vous appelez une manière de toucher la guitare. Qui est,
de la main droite, oui. Hein,
parce qui est particulier.
Il est droitier. Alors, la bachida de João Gilberto, il y a toute une équipe de chercheurs, je crois que c'est l'université de Bahia, qui s'est mise là-dessus. Ils n'ont toujours pas réussi à codifier la façon dont João Gilberto joue. C'est-à-dire, si vous, Jean-Christophe Ruffin, vous êtes musicien, si vous êtes guitariste, je vous mets au défi, mais même si vous étiez un guitariste, même de génie, je crois. Je vous mets au défi d'écouter une chanson jouée par João Gilberto. Je vous donne la liste d'accords, je vous donne toutes les notes, je vous donne le tempo, je vous donne tout ce que vous voulez. Vous êtes absolument incapable de répéter, de mettre vos pas dans les pas de João Gilberto. Et c'est ce qui différencie un génie d'un excellent musicien. C'est-à-dire que lui, il a fait d'une musique disponible pour tous, il a fait chaque fois il fait un joyau unique. C'est pour ça qu'il sort très peu de disques.
Alors, dans votre livre, Jean-Paul Delfino, qui s'intitule Bossa Nova, là, aux éditions du Passage, vous racontez, pour les corriger d'ailleurs parfois, plein d'anecdotes qui traînent sur João Gilberto. Alors, vous pouvez nous en raconter 2-3, parce que c'est quand même un personnage qui arrive en retard, qui vient pas, il fait des concerts, il envoie quelqu'un d'autre. Enfin, il se comporte comme ça, vraiment.
Oui. Moi, personnellement, il m'est arrivé la première fois, j'ai essayé de le rencontrer. Donc, j'avais 21 ans, j'étais à Rio. J'ai réussi à avoir l'adresse de son appart-hôtel, parce que malgré sa fortune, il ne vit pas dans une maison somptueuse, il vit dans un appart-hôtel.
Il vit à l'hôtel.
Ouais, il vit à l'hôtel. Et donc, j'ai réussi à me faufiler derrière les grilles de sécurité. Donc, je suis monté à l'étage, j'ai tapé à sa porte, on ne m'a pas répondu. Et j'ai passé 7 heures dans un placard à balai en attendant que le maestro João Gilberto sorte. Et en fait, j'ai été jeté à la rue. J'ai posé, le lendemain, j'arrivais à Aix-en-Provence, et le téléphone sonne, c'était João Gilberto qui m'appelait. Voilà, ça c'est du João Gilberto. Je me retrouve à Antibes, Juan-les-Pins, il y a un concert merveilleux de 3 musiciens extraordinaires qui sont Caetano Veloso, João Bosque et João Gilberto. Le concert a lieu, moi je suis admiratif, tout le monde veut aller backstage parce que c'est la grande mode, on veut aller dans les coulisses, mais João Gilberto dit c'est le dernier concert de la tournée européenne, je ne veux personne sauf les techniciens. et Caetano Veloso, qui a de la mémoire et beaucoup d'amitié, me voit parmi la foule, me fait passer derrière le cordon de sécurité, et Juan Gilberto, il me présente enfin au maître Juan Gilberto, et moi, naïvement, je lui serre la main vigoureusement, alors qu'il est interdit de toucher la main de Juan Gilberto, parce qu'il a peur qu'on lui casse les doigts. Et là, le service de sécurité me saute dessus, et Juan Gilberto dit « Non, non, laissez-le, c'est l'auteur de mon premier bouquin, Brasil Bossa Nova, ce monsieur veut m'interviewer. » Et là, pendant une demi-heure, on fait les 100 pas, c'est 3 heures du matin, Antibes, Juan les Pins, à 20 mètres, il y avait des murs de caméras, d'appareils photo, et tout le monde qui se demandait « Mais qu'est-ce que c'est, fille d'apôtre, qui está falando con doctor ?» qui est ce garnement qui est en train de parler avec le docteur Juan Gilberto. Ouais. Et Juan Gilberto me donne son interview, je le raccompagne à sa chaise, et là, Jean-Christophe Ruffin, je vous le donne en mille, il reprend sa petite flûte de champagne, il me dit « Monsieur Delfino, est-ce que je peux vous demander un service ?» Alors il me redemandait d'aller sur les mers à Rio, j'y allais, je traversais la mer sur les mers, il me dit « L'interview que je vous ai donnée, s'il vous plaît, ne l'écrivez jamais. » Et cette interview, je ne l'ai jamais écrite.
Oui, voilà.
C'est Juan Gilberto.
C'est Juan Gilberto. Alors, la bossa nova, quand ils vont l'inventer, ce groupe-là, parmi lesquels, évidemment, domine Juan Gilberto, vous dites, ce sont des blancs, essentiellement. Le Brésil est important. On pense toujours à la mixité au Brésil, mais enfin, l'identification sociale et raciale est très importante au Brésil. C'est des blancs de la classe aisée supérieure, même. Vinicius, diplomate, Tom Jobim, fils de industriel, enfin des gens très fortunés. Ensuite, le succès de cette musique va élargir quand même un peu cette origine. Il y a ce que vous appelez les signes noirs, c'est quoi les signes noirs de la bossa nova?
Dans le premier opus dont je parlais tout à l'heure, j'avais écrit simplement une lettre d'amour. C'était il y a 30 ans, et il y a 30 ans déjà j'écrivais pas comme j'écris aujourd'hui. Et j'ai voulu aller voir plus loin. Je me suis rendu compte que derrière le vernis, mais c'est un vernis que j'adore, cette musique, le peu que je suis aujourd'hui, c'est au Brésil et à la musique brésilienne que je le dois. Je suis pas naïf. Et donc j'adore la bossa nova, mais j'ai voulu aller voir derrière le miroir qu'est-ce qui se cachait, et je me suis rendu compte en parlant donc avec Baden-Powell et avec d'autres personnes que oui, on pouvait devenir célèbre du jour au lendemain en faisant de la bossa nova, mais il y avait quelques conditions. Il fallait être blanc, il fallait être de bonne famille, et il fallait être un homme. Et surtout pas une femme. Et si on était une femme, il fallait ne pas quitter son rôle de chanteuse de bluette. Voilà, grosso modo, c'était ça. Donc à côté des gens, on participe à la construction de la bossa nova. Je parle de Johnny Auf, qui était d'ailleurs, même Tom Jobim l'appelait Genie Auf, le génie Johnny Auf, qui était un pianiste merveilleux, qui est mort il y a pas très longtemps, mais qui avait deux gros défauts. Le premier, c'est qu'il était nègre, et ça se voyait sur sa peau, donc c'est pour ça qu'il n'est pas allé au Carnegie Hall, dont on parlera peut-être après. Et l'autre défaut, c'était pour le Brésil de cette époque, c'est qu'il était homosexuel. Et ça, c'était totalement hors de question. Je parle de Norma Bengel. Vous pouvez ouvrir n'importe quel bouquin au Brésil, personne ne vous parlera d'elle. Mais moi, cette femme me fascine. Son premier disque sort en 59, quelques mois après Chega de Saudade. Et pour moi, c'est la première interprète femme à faire du cant falado, du chant parlé. Elle a des titres qui deviendront des standards de la bossa nova sur ce disque. Elle a fait un seul disque, mais il était hors de question qu'elle soit mise à l'honneur, parce qu'elle avait divorcé plusieurs fois, elle ne faisait aucun mystère de ses avortements, et elle le disait aussi très volontiers qu'elle aimait les femmes aussi bien que les hommes. Donc il y a quelques signes noirs que j'essaye de non pas de réhabiliter, qui je suis pour réhabiliter qui que ce soit.
Non, mais vous leur donnez vie quand même et leur place.
Je leur rends leur place,
dans ce mouvement. On va écouter un morceau absolument fondamental, c'est-à-dire... ce moment où cette bossa nova, qui est une invention brésilienne et qui se diffuse d'abord au Brésil, va tout à coup déborder les frontières, passer aux États-Unis et dans le monde entier. Thank you. Discussion du soir, toujours avec Jean-Paul Delfino et toujours avec la bossa nova. Alors, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est la confluence de cette musique brésilienne, née au Brésil, dans un appartement, vous l'avez dit, avec les États-Unis. Et là, il y a une date extraordinaire. Puis dans votre livre, Jean-Paul Delfino, le livre Bossa Nova, vous racontez des tas d'anecdotes autour de ce concert avec Stan Getz, qui va en fait montrer au monde ce que c'est que cette nouvelle musique.
En fait, le concert du Carnegie Hall, c'est à la fois ça pourrait être le sujet d'un film.
Et quelle est la date?
1962. Donc, la bossa nova existe depuis 4 ans, à peu près, déjà, au Brésil. Et les USA apprécient, enfin, les jazzmen, les jazzwomen sont déjà venus à plusieurs reprises pour voir un peu ce qu'est cette bossa nova, mais les majors, et les radios nord-américaines ne s'y intéressent pas plus que ça. Sauf que l'histoire avec un grand H donne un coup de pouce à la bossa nova, et il y a le fameux épisode de Cuba. Donc à partir du moment où Cuba met une gifle à l'oncle Sam décide du jour au lendemain que tout ce qui est cubain est désormais interdit aux USA, plus de cigares, plus de rhum et plus de musique. Et comme la nature a horreur du vide et les producteurs ont horreur aussi de perdre du chiffre d'affaires, ils cherchent très rapidement ce qui va pouvoir remplacer Cuba, c'est-à-dire Cuba est à l'époque un bordel à ciel ouvert sous Batista, c'était vraiment ça. Donc ils se disent, on va faire la même chose au Brésil, il y a de très belles filles, il y a cette bossa nova est quand même beaucoup moins dionysiaque, beaucoup moins explosive que le samba, donc ça devrait pouvoir coller. Et ils décident d'organiser un concert historique. Donc,
alors la mafia s'en mêle, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors le producteur c'est Frey, F-R-E-Y, si je me souviens bien. Et ce monsieur était avait une assez mauvaise réputation, c'est-à-dire il était connu pour soit faire enregistrer des disques et il ne payait jamais ni les musiciens ni les droits d'auteur qui suivaient, soit pour voler carrément des mélodies. Il avait des poissons pilotes qui se baladaient dans les favelas et qui allaient tout simplement d'oreille retenir des mélodies et les faire endosser la paternité par d'autres. Et donc ce monsieur décide du jour au lendemain, il dit on va faire un concert historique au Carnegie Hall qui n'avait accueilli que des concerts classiques et du jazz, et donc la bossa nova va à ce moment-là pouvoir s'ouvrir au monde. Tout ça bien évidemment uniquement pour remplacer Cuba. Et donc c'est à ce moment-là que une bande de gamins dont on parlait tout à l'heure, donc exactement les mêmes, se retrouvent, et ça il faut imaginer la scène, ils sont pour les filles en petite jupe et pour les garçons en costume léger, et ils se retrouvent à New York où manque de bol, quand ils arrivent il y avait 20 cm de neige, donc le choc est absolument terrifiant, et ils donnent cette fameuse soirée qui a été quand même assez catastrophique
avec Stan Getz. Alors après il y a l'enregistrement du disque, et alors c'est très, très, très amusant aussi dans votre livre, Jean-Paul Delfino, parce que vous racontez qu'évidemment ils ne communiquent pas parce qu'il y en a qui parlent portugais, d'autres parlent anglais. Alors Jean Gilberto écoute Stan Getz et dit qu'est-ce que c'est que ce con, il fait n'importe quoi. Alors le traducteur dit il est en train de dire qu'il apprécie beaucoup de jouer avec vous, enfin, c'est très amusant, et il y a cette espèce de malentendu, mais enfin finalement et malheureusement on ne pourra pas aller plus loin, mais je recommande vraiment de lire ce livre Bossa Nova, l'histoire de la grande aventure du Brésil, parce que ça tisse vraiment cette histoire jusqu'au bout. Cette musique va devenir une musique mondiale, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle vous a converti au Brésil.
Ah oui, elle a tout emporté sur son passage.
Voilà, et aujourd'hui, elle a eu une diffusion mondiale, elle a fait des petits, à la fois au Brésil, et à la fois, évidemment, dans toute la création, en Europe, aux États-Unis, partout.
Et pour la première fois, la musique brésilienne a influencé la musique internationale. C'est-à-dire, ce n'est plus le jazz qui est venu influencer le Brésil, c'est la bossa nova qui a influencé le jazz. Et ça, c'est une sacrée marque de reconnaissance.
A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão.
Merci Jean-Paul Delfino et merci pour cette évocation poétique de la bossa nova avec ce livre, je le répète, aux éditions du Passage qui s'appelle Bossa Nova. La grande aventure du Brésil, les discussions du soir, discussions du soir en musique avec ce soir et grâce ce soir à Jean-Paul Delfino, Jay Santaus, Laurence Genepin, Anne-Pascal Desvignes, Jean-Christophe Ruffin. É senhora, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão. Demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora.
O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador.
A tristeza